Sergio Romano, merci. Je rappelle que vous êtes l'éditorialiste du Corriere della Sera qui paraît demain à Milan. Le temps de demain, mercredi en France. Météo France nous promet du gris, de la pluie et un peu de neige aussi sur le nord-est. La grisaille matinale fera place à quelques éclaircies à la mi-journée, mais la pluie débordera de la Normandie et du Pas-de-Calais-Picardie au Poitou-Charente et à la Gironde. Les maximales de demain après-midi, 5 à 9 degrés sur le nord, le nord-ouest et même le sud-ouest. 10 à 16 degrés pour les régions méditerranéennes. 22h15 sur France Culture, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez, comme chaque soir de la semaine, Alain Weltschen, surpris par la nuit.
Quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir de l'imagination, disait-on autrefois. Maintenant, si on a du pétrole, on risque d'avoir de la corruption. C'est du moins ce que l'émission de ce soir peut laisser entendre. La transparence de l'or noir, un documentaire de Marianic Bello, réalisé par Anne Fleury. À 23h30, retour à l'imagination. Je recevrai Eugène Savitskaya dans Du jour au lendemain. Il publie Nouba chez Yellow No.
Surpris par la nuit.
On va appeler un chat un chat. Elf a été créé pour maintenir l'Algérie et les rois nègres dans l'orbite française par le biais du pétrole.
Lecture du procès de l'affaire Elf par Nicolas Lambert.
Avec les Algériens, ça a capoté, avec les rois nègres, ça se poursuit. Le système a été créé pour permettre cette opacité. Le président d'Elf est un ministre bis de la coopération. C'est pourquoi le général de Gaulle, avec son homme de l'ombre Focard, a placé à sa tête un éminent membre des services secrets. Et c'est pourquoi Elf a de tout temps financé les services secrets. Elf avait donc trois objectifs, diplomatiques, politiques et industriels.
Mais vous-même, monsieur Le Floch-Prigent, vous n'étiez pas un homme issu des Rangoliens, que je sache. Vous étiez inscrit au Parti Socialiste. Vous auriez donc pu faire évoluer cet état de fait que vous rencontrez au moment de votre arrivée.
Mais quand j'ai posé la question à François Mitterrand de savoir si je devais mettre un terme à un système qui me paraissait efficace, mais dangereux, sa réponse a été claire. ELF a été créé pour cela.
Xavier Harel, journaliste.
L'Afrique est un peu le dernier continent à avoir basculé dans l'univers pétrolier, puisque les premières découvertes datent des années 50, mais le vrai boom pétrolier du continent, c'est les années 60-70. C'est-à-dire que la France, qui exploitait l'essentiel de son pétrole en Algérie, est chassée d'Algérie en 62, et donc la compagnie pétrolière de l'époque, qui s'appelle ELF, décide de se rabattre sur d'anciennes colonies en Afrique centrale. Et donc c'est le début du pétrole africain, en tout cas pour la partie ELF. C'est le Gabon, c'est le Cameroun, c'est le Congo-Brazzaville. Très rapidement, ces pays deviennent des pays importants en termes de production pétrolière, jusque dans les années 80-90. Et là, il y a un deuxième boom pétrolier, pourrait-on dire, qui est celui de l'arrivée des compagnies pétrolières américaines, qui d'un seul coup, confrontées à l'instabilité dans le Golfe et au Moyen-Orient, s'intéressent de très près à l'Afrique de l'Ouest, et notamment l'Afrique centrale, et envoient leurs compagnies pétrolières. Et là, il y a des découvertes très importantes qui sont faites au Nigeria, en Angola, en Guinée équatoriale, et d'un seul coup, le continent africain devient le continent montant en termes de production pétrolière. Aujourd'hui encore, c'est le continent où la production augmente la plus vite. Ce n'est pas celui qui a le plus fort potentiel. Le Golfe reste la principale région du monde en termes de réserves de pétrole et de production, mais la région du monde où la production augmente la plus vite, c'est l'Afrique.
Dans votre livre, vous évoquez les chiffres de 8 à 10 % des réserves pétrolières mondiales.
Voilà, et à peu près autant concernant la production, puisqu'on est à peu près une dizaine de pourcents. Ce sont des montants colossaux. Il y a récemment une étude qui est sortie d'un institut spécialisé sur le pétrole qui s'appelle PFC Energy et qui a tenté d'évaluer les recettes pétrolières générées par les sept principaux pays producteurs en Afrique. Donc c'est le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun, si je n'en ai oublié aucun. Sur la période 2002-2019, ces sept pays vont encaisser 1000 milliards de dollars de recettes pétrolières avec un pétrole à $60. Aujourd'hui, on est à 90. Ça pourrait très bien encore augmenter dans les années à venir. Donc ce sont des montants absolument colossaux.
Et pourtant, ce boom pétrolier ne profite pas à la population civile.
C'est l'une des caractéristiques de cette industrie un peu particulière qu'est le pétrole. C'est qu'on pourrait imaginer que trouver du pétrole dans son sous-sol est finalement une bénédiction. C'est un petit plus, ça génère des revenus qui permettraient de construire des infrastructures, de financer l'éducation ou la santé. Dans les faits, c'est bien souvent une malédiction. C'est-à-dire que tous les pays pétroliers, et c'est pas propre à l'Afrique, hein, mais tous les pays pétroliers en général font moins bien en termes de croissance, de développement humain, de développement social que des pays où il n'y a pas de pétrole. Cette malédiction, alors c'est pas une malédiction divine, ça tient à cette industrie. L'industrie pétrolière est une industrie extrêmement capitalistique. Il faut engager des investissements colossaux qui se chiffrent très vite en milliards de dollars. Mais une fois que ces investissements ont été engagés, cette industrie ne produit que des dollars, que des pétrodollars et très peu d'emplois. Donc toute la difficulté, c'est de gérer cette manne pétrolière. Contrairement à l'agriculture ou le tourisme, qui sont des industries où finalement la richesse produite par les gens se diffuse dans la société, eh bien le pétrole, vous avez une manne pétrolière qui ne se diffuse pas puisqu'elle est simplement captée par l'État ou bien par les individus qui contrôlent l'État. Et donc toute la difficulté, c'est de rediffuser cet argent. Le second point, c'est que ça a des effets extrêmement délétères sur les institutions politiques, puisque s'agissant d'une manne, d'une rente pétrolière, eh bien la tentation est forte de capter une partie de cette rente. Et donc, bien souvent, l'industrie pétrolière nourrit des pratiques de prédation, c'est-à-dire que le régime en place se paye sur la bête et n'a, autre aspect, n'a aucun compte à rendre à la société, puisque il n'est plus nécessaire de lever l'impôt. L'État, en tant que tel, n'a plus de compte à rendre à ses citoyens. Il y a l'année dernière, ou au début de l'année, Denis Sassou Nguesso a donné une interview à Jeune Afrique, et le titre de l'interview, c'était « Je n'ai de compte à rendre à personne ». L'autre aspect, c'est que, évidemment, lorsque vous contrôlez le pétrole dans un pays comme le Congo, le pétrole représente 80% des recettes budgétaires. C'est la même chose en Angola ou Nigeria. Lorsque vous contrôlez la manne pétrolière, vous contrôlez l'ensemble de l'économie. Cela signifie que des hommes d'affaires indépendants ne peuvent pas financer l'opposition et que l'opposition n'a pas d'assise financière. Et donc le seul moyen d'exister, c'est d'être proche du régime ou d'être sous la coupe du régime. Partant de là, c'est très compliqué d'avoir des alternances démocratiques puisque l'opposition a beaucoup de mal à exister, à se développer, que les hommes d'affaires n'ont pas intérêt à une alternance puisque leur environnement dépend du régime en place. Et donc, bien souvent, ce sont des pays où l'alternance se fait de façon violente, par des guerres civiles. C'est la raison pour laquelle les pays pétroliers sont des pays qui sont abonnés aux guerres civiles. Donc, à la fois, on a une manne importante, des institutions qui ne fonctionnent pas, un pouvoir qui est extrêmement concentré. Donc on a tous les ingrédients pour avoir des sociétés assez malades.
Christian Mounzeo.
La situation est réellement dramatique. Vous pouvez vous imaginer, l'électricité est distribuée par délestage une fois les deux, les trois jours. L'eau potable est réellement inaccessible car il sort, et c'est rigolo, mais il sort parfois des têtards dans les robinets. Il y a des quartiers qui, depuis des années durant, ne sont pas alimentés en eau. Mais paradoxalement, vous prendrez le cas, par exemple, de la construction des palais présidentiels dans les chefs-lieux de région. Vous prendrez, par exemple, tout à fait récemment encore, la construction d'un mausolée à la mémoire de Savornin de Brazza, un colonisateur, à environ 10 milliards de francs CFA qui ont été dépensés, alors que dans le même temps, il est prouvé que avec ces 10 milliards, on aurait pu avoir obtenir l'eau potable, on aurait pu en tout cas prendre en charge un certain nombre donc de priorités, n'est-ce pas, des populations du Congo.
Grégoire Niaudet, Secours catholique.
Je crois que le coût de revient d'un baril au Congo, il tourne autour de 8 dollars. Donc quand on sait qu'actuellement on atteint presque les 100 dollars le baril, on voit les marges importante de bénéfices que ça fait pour l'ensemble des intermédiaires qui sont dans la filière de commercialisation et de production. Le deuxième effet pervers qui est important aussi quand on bénéficie d'une manne pétrolière aussi importante que celle-là, quand ça génère près de 80 à 90% des recettes d'exportation d'un pays, c'est une source énorme de devises pour le pays. Il est à ce moment-là très souvent plus intéressant à court terme d'importer des biens de consommation ou des biens d'investissement dans le pays que d'essayer de développer des industries qu'ils produiront elles-mêmes. Même chose sur l'agriculture. À court terme, c'est plus intéressant d'importer du blé, du riz, du manioc, etc., plutôt que d'essayer de mettre en place les mécanismes pour les produire localement. Et le Congo est tout à fait dans cette situation-là. C'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais, le Dutch disease en économie, qui est de s'orienter vers des importations de biens d'équipement et de biens de consommation plutôt que d'essayer de les produire à l'interne et de développer une économie qui n'est pas pétrolo-dépendante, quoi. C'est un des enjeux forts quand on a une manne pétrolière comme ça.
Xavier Harel est l'auteur de Afrique, pillage à huis clos, enquête sur la corruption liée au pétrole en Afrique, en particulier au Congo-Brazzaville.
Lorsque j'ai commencé ce livre, je voulais dénoncer un petit peu le double discours des pays riches à l'égard de l'Afrique, qui consiste à dire il faut aider ce continent qui a des difficultés, et dans le même temps on refuse de voir ce que font nos compagnies pétrolières ou nos banques dans ce continent. Donc d'un côté, on dit qu'il faut augmenter l'aide publique au développement, qu'il faut annuler la dette, créer des taxes sur les billets d'avion pour financer la lutte contre certaines pandémies. Et puis de l'autre, on laisse nos compagnies pétrolières, nos banques participer à l'évaporation de la rente pétrolière dans ces pays. Donc ça, c'était le point de départ, c'est le fil conducteur du livre, c'est de dénoncer le double discours des pays riches, du G7, et tout particulièrement à l'époque, c'était celui de Jacques Chirac, de Tony Blair et de George Bush. Il n'en reste plus qu'un. Et puis, est venu le moment de l'enquête, et effectivement, je comptais consacrer un ou deux chapitres au cas du Congo-Brazzaville, et puis j'ai commencé à tirer un fil, et l'ensemble de la pelote, ou presque, est venu. Le Congo est vraiment un pays particulier au sens où on y retrouve tous les maux et où la corruption prend des dimensions assez exceptionnelles, c'est-à-dire qu'elle ne se cache même pas. Le président Sassou Nguesso est descendu à l'hôtel Palace à New York en 2006. La note se chiffrait à plus de 300 000 dollars pour 5 jours, où il est descendu avec une cinquantaine de personnes. La raison de sa venue à New York, c'était un petit discours de 7 à 8 minutes à la tribune de l'ONU, où il a rappelé les pays riches à leurs engagements en matière d'augmentation de l'aide publique au développement. Donc on est face à un régime d'un cynisme absolu. Le Congo-Brazzaville est un petit peu l'idéal type du pays pétrolier. C'est-à-dire qu'on retrouve absolument tous les maux de l'industrie pétrolière. On y retrouve un pays qui a été touché par 3 guerres civiles qui ont bien souvent eu pour principal enjeu le contrôle de la manne pétrolière. La dernière date de 99. Auparavant, Sassou Nguesso, l'actuel président, est revenu au pouvoir par un coup d'État en 97, au cours duquel il a chassé le président élu Pascal Lissouba.
Denis Sassou Nguesso est connu pour son esprit de clan, c'est-à-dire qu'il a installé ses neveux, autour de lui, à tous les postes importants, notamment au poste économique.
Les détracteurs de Sassou Nguesso appellent ça l'épicerie familiale. C'est-à-dire qu'on a un régime complètement clanique, où la famille détient la plupart des postes, où la famille contrôle la plupart des sociétés de façon ouverte ou de façon détournée, où la famille détourne des sommes absolument colossales tous les ans du revenu pétrolier.
Jean-François Lassalle, directeur des relations extérieures du département exploration production chez Total.
Au Congo, ben, nous sommes le principal producteur au Congo. Nous produisons aujourd'hui 90 000 barils équivalents pétrole par jour. Et il y a un champ qui s'appelle Moho Bilondo qui va entrer en production au deuxième trimestre 2008 et qui va porter la production de notre filiale à 170 000 barils jour. Voilà, c'est un pays important pour Total. Cela représente environ 13% de la production du groupe Total en Afrique et 4% de la production du groupe Total dans le monde entier.
Depuis 2002, une nouvelle forme de lutte internationale contre la corruption se met en place. C'est l'EITI, Initiative de transparence des industries extractives. Cette initiative rassemble notamment des ONG, des États et des entreprises du secteur extractif. Elle repose sur un principe simple, la publication par les entreprises de ce qu'elles versent aux États et en parallèle, la publication par les États de ce qu'ils ont perçu comme recettes au titre de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Un audit indépendant garantit la transparence des revenus déclarés. À terme, cela donnerait les moyens aux citoyens de demander des comptes à leurs États sur la façon dont ces sommes ont été employées. Jean-François Lassalle est membre du conseil d'administration de l'EITI.
Pour nous, on y voit que des avantages, mais je crois que c'est au-delà de Total ou de l'industrie pétrolière, il y a des avantages pour toutes les parties concernées. C'est ce que j'appellerais une démarche gagnant-gagnant. Alors, en ce qui nous concerne, le premier avantage, c'est d'encourager la stabilité politique. Lorsque vous avez un régime dictatorial qui est en place, il est évident que lorsque celui-ci change, et souvent c'est par les armes ou par la volonté de la rue, eh bien, on se retrouve dans un système de tension dans lequel les investisseurs sont très mal à l'aise parce qu'ils peuvent être vus comme ayant participé à la mise en place ou à la continuité du régime précédent. Donc, en favorisant une plus grande transparence, on favorise des changements politiques éventuels d'une manière respectueuse des volontés des populations. Et donc, ces changements sont moins dramatiques que s'ils opèrent par la violence. Et à ce moment-là, l'investisseur continue sans problème d'être présent dans un pays. Et on se retrouve dans une situation un peu du type de ce qu'on a en Europe, où les gouvernements changent, mais les contrats restent. Également, cela a un avantage en matière de réputation. De plus en plus d'actionnaires aujourd'hui demandent cette transparence. Et donc, si nous pouvons l'amener à travers cette démarche de l'EITI, ben c'est également favorable à nos intérêts. Enfin, toute démarche de transparence est bien vécue par le personnel, est un élément de satisfaction et donc de motivation. Voilà, tout ça donc concourt à une plus grande sécurisation de nos investissements à long terme. Lorsque l'on sait que l'on est dans des pays pour 30, 40 ans, eh bien, l'EITI concourt à la stabilisation de notre intérêt.
Et pour ce qui est des inconvénients ?
Ben, les inconvénients, j'en vois pas vraiment. Vous me direz, certaines personnes vont y perdre. Plus de transparence ne peut pas favoriser tout le monde. Mais enfin, en ce qui nous concerne, en tous les cas, et en ce qui concerne les populations en général, c'est une démarche qui va dans le bon sens. Certains États sont très demandeurs de transparence, souvent parce que derrière la transparence, il y a un allègement de la dette. Donc les pays qui voient leur avenir obéré par une dette importante sont très moteurs de l'EITI. Lorsque ces mêmes pays voient tout d'un coup des revenus pétroliers nouveaux arriver et donc un avenir plus radieux, des fois, ils sont un peu moins demandeurs. Ça peut arriver également. Donc, c'est des choses qui évoluent en fonction de la volonté politique des États. Est-ce qu'il y a un élément qui freine ou qui accélère l'initiative ?
historique de Floch-Prigent par Nicolas Lambert.
Bon, c'est vrai que j'ai été amené à faire des compromis auxquels mon éducation ne m'avait guère préparé. Favoriser l'obtention de contrats en m'appuyant sur la vanité ou la vénalité des hommes. Mais bon, j'ai pas inventé le système. Hein. Il y avait d'autres méthodes. Hein. Il fallait dégager des fonds. Ah, il y avait d'autres méthodes. Il est arrivé que des cargaisons fantômes d'hydrocarbures échappent aux comptabilités officielles et soient partagées entre hommes de l'ombre. En fait, il y avait plusieurs systèmes au sein d'Elf, dont chacun sait qu'il fonctionne de façon autonome. Il y avait le système Taralo avec l'Afrique, évidemment, mais il y a aussi le système Sanofi, la filiale pharmaceutique d'Elf, dont les dirigeants sont eux aussi très proches de Jacques Chirac et du RPR. On a retrouvé des gens d'Elf aussi dans des opérations de pure barbouzerie ou dans des groupes aussi douteux que ceux de Bob Denard aux Comores.
Le procès Elf n'a fait que juger la partie paillette du scandale Elf, c'est-à-dire que finalement on a jugé Taralo, Elf, Alfred Sirven simplement pour quelque chose d'assez banal qui est simplement d'avoir tapé dans la caisse pour financer leur train de vie. En revanche, tout le système de corruption généralisé mis en place par Elf, lui, n'a jamais été jugé. Alors ce système de corruption, c'est évidemment a été mis à jour par les enquêtes de Eva Joly, Wisniewski et Renaud Van Runbeck. On peut le il se découpe en trois principaux volets qui étaient le premier les bonus. Alors les bonus, c'est lorsque vous voulez obtenir un permis pétrolier, en tout cas le droit de faire de la prospection, eh bien vous versez quand il y a plusieurs compagnies qui sont en concurrence, vous versez un bonus qui permet de les départager. Celle qui est la mieux disante, qui fait la meilleure offre, eh bien remporte le droit de faire de l'exploration puis de la production. Alors il y avait les bonus officiels, mais il y avait évidemment aussi les bonus officieux qui étaient versés sur les comptes de présidents africains qui sont toujours en exercice, hein, Bongo, Biya, Sassou. Il y avait ce qu'on appelait les abonnements. Elf produisait le pétrole, mais le commercialisait également. Et donc une partie du prix de chaque baril revenait au chef d'État africain sous la forme d'abonnements qui étaient directement versés sur des comptes en Suisse. Et le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle les préfinancements, c'est-à-dire que, les prêts gagés, c'est-à-dire que les compagnies pétrolières avançaient de l'argent à des régimes en difficulté ou confrontés à une guerre civile contre des barils encore enfouis. Ce qui donnait aussi lieu à des détournements puisqu'on était en dehors de toute comptabilité. Donc tout cet aspect des choses, cette corruption absolument généralisée dans l'industrie pétrolière n'a jamais été jugée dans le cadre du procès Elf. Il faut savoir que tout cela était même légal à l'époque puisque lorsque des compagnies pétrolières versaient des commissions ou n'importe quelle multinationale française versait des commissions pour obtenir des marchés à l'étranger, eh bien elle allait à ce qu'on appelle le confessionnal, c'est-à-dire au ministère de l'économie et des finances, déclarer les commissions versées, qui étaient même déductibles de ses impôts. Alors ces pratiques ont été interdites après l'adoption de la convention OCDE sur la corruption, qui interdit désormais, très clairement depuis 2000 en France, de corrompre des fonctionnaires étrangers pour obtenir des marchés. Donc ces pratiques sont aujourd'hui illégales, elles étaient à l'époque légales.
Plus de transparence, c'est plus de démocratie.
C'est le but. Nous ne sommes pas à la recherche dans cette initiative de la transparence pour la transparence. Le but, c'est bien la meilleure gouvernance. Je ne sais pas si on peut parler de démocratie, mais une meilleure gouvernance. Et là, on dépasse un peu le domaine des compagnies pétrolières ou de l'industrie en général. Il est sûr que les organisations non gouvernementales vont souhaiter passer un cran plus haut, qui va être de demander aux États, eh bien, vous avez reçu tant de millions de dollars ou d'euros dans vos caisses, qu'en avez-vous fait? Montrez-nous des progrès en matière d'éducation, de santé. Et là, je veux dire, c'est une démarche citoyenne qui nous intéresse, certes, mais qui est de l'ordre du citoyen, de l'ONG, plus que de l'investisseur.
Lorsque Total reprend, absorbe Elf et Fina en 2000, Total se présente alors comme une grande compagnie pétrolière. Elle devient la quatrième compagnie pétrolière au monde. Elle devient purement privée et elle affiche uniquement des objectifs financiers, c'est-à-dire satisfaire ses actionnaires et devenir une entreprise extrêmement rentable. Et elle affirme avoir tourné la page des années Elf.
C'est en partie vrai. Je pense qu'aujourd'hui, Total n'est plus dans la situation où elle préparerait ou imaginerait des coups d'État parce que ses intérêts seraient menacés dans tel ou tel pays africain.
Ce qui était le cas de Elf.
Toutefois, il y a quand même une continuité. Les compagnies pétrolières, Total comme les autres, doivent évoluer dans des régions qui ne sont pas simples, travaillent dans des pays qui sont rarement démocratiques et évidemment sont sujets à ce genre de pression. Alors Total affirme que elle ne participe plus à aucun montage de cette nature. Toutefois au Congo, j'ai mis à jour un montage assez scandaleux. Lorsque Sassou Nguesso revient au pouvoir en 1997 par un coup d'État, donc, il découvre que son prédécesseur Pascal Dissouba a bradé un certain nombre d'actifs pétroliers à Elf parce qu'il avait besoin de financer, de payer ses fonctionnaires, il avait besoin de s'acheter de l'équipement militaire. Et donc Sassou Nguesso dit va voir Elf et explique que ces actifs ont été bradés et que donc c'est scandaleux et que le Congo doit être indemnisé. De là s'engagent des négociations très longues entre Elf puis Total et le Congo sur une indemnité. Et en 2003, le Congo et Total se mettent d'accord. Total donne pour le franc symbolique un vieux gisement qui s'appelle Likwala, qui est un gisement en fin de vie dont Total possède 65%, et le donne au Congo pour apurer ses anciennes dettes. Mais le Congo, au lieu de confier ce gisement de pétrole à la SNPC, c'est-à-dire la Société Nationale des Pétroles du Congo, qui est une société d'État chargée de commercialiser, de traiter, de s'occuper de toute la chose pétrolière au Congo, eh bien ce gisement est immédiatement vendu à une société qui s'appelle Likwala SA, qui est totalement inconnue du milieu pétrolier, dont le capital social est absolument ridicule, une société de droit congolais. Cette société est elle-même contrôlée par une autre société qui s'appelle Montreux International dans les îles Vierges britanniques, elle-même contrôlée par une fondation à Jersey. Alors immédiatement, le Fonds monétaire international, le FMI, qui met son nez dans ces affaires, sent quelque chose d'anormal et imagine bien qu'au bout de ce montage, il y a le président ou des hommes du président, et demande des comptes au Congo, qui explique mais pas du tout, cette transaction, il n'y a pas d'intérêt privé dans cette transaction, il n'y a que Total, le Congo et la SNPC. Malheureusement, on ne trouve aucune trace des revenus générés par ce gisement dans les comptes, dans la comptabilité du Congo. Or, ce gisement génère entre 60 et 100 millions de dollars par an, quand même des sommes assez importantes, mais l'argent ne finit jamais au trésor public ou dans le budget. Alors, lorsqu'on interroge Total sur ces questions, on leur dit « mais vous, quand même, vous avez participé à un montage un peu curieux ». Ils disent « mais nous, on ignore qui est derrière tout ça, puisqu'on est simplement l'opérateur, c'est-à-dire qu'on fait tourner la boutique, c'est-à-dire que Total continue d'extraire le pétrole pour le compte de Likwala SA ». Malheureusement, en grattant un petit peu, on se rend compte que l'administrateur de Likwala SA était un salarié de Total. Jusqu'en 2006, il a donné sa démission courant 2006. Donc Total était parfaitement et est parfaitement au courant de l'ensemble du montage, puisque Monsieur André Baumina, qui était administrateur, était, ça ne s'invente pas, responsable du développement durable de Total Congo. Donc Total participe ou se rend complice de l'évaporation de 60 à 100 millions de dollars de revenus pétroliers tous les ans au profit d'une mystérieuse fondation à Jersey. Si on avait voulu cacher les véritables bénéficiaires de cet argent, on ne se serait pas pris autrement. C'est assez désespérant dans le cas du Congo-Brazzaville, c'est qu'il y a aussi la complicité de grandes banques, notamment de BNP Paribas, qui participent au financement d'opérations absolument détestables, où il y a 8 dollars d'écart par baril entre le prix auquel le pétrole est vendu par la Société Nationale des Pétroles du Congo, la SNPC, et le prix auquel le raffineur final achète la cargaison de pétrole. Alors, comme BNP Paribas est une banque sérieuse, évidemment, elle s'assure qu'elle sera bien remboursée par la SNPC. Donc, ce qui se passe, c'est que le prêt est nanti par la cargaison. Donc, en quelque sorte, elle devient propriétaire de la cargaison de pétrole. Et
elle sait parfaitement tout ce qui se passe tout au long. Donc elle sait qu'il y a un écart de 8 dollars sur chaque baril, ce qui fait quand même des commissions de 8 millions de dollars sur une cargaison de pétrole. C'est absolument colossal. Il faut avoir en tête que dans l'industrie pétrolière, dans le négoce pétrolier, un bénéfice de 20 à 30 cents par baril, c'est un bénéfice normal. Là, on est à 8 dollars. Donc on est 50 fois au-dessus d'un bénéfice normal dans le négoce pétrolier. BNP Paribas finance ce genre de transactions.
Et alors pourquoi cette banque-là ? Historiquement, d'où ça vient ?
Alors, historiquement, je pense qu'il y a la dimension Paribas. BNP Paribas est la première banque au monde en termes de financement des matières premières. Donc c'est une banque qui est très présente, pas seulement en Afrique, hein, mais dans le monde entier sur le financement, et pas seulement du négoce, mais des infrastructures, du développement, des industries pétrolières et minières. Paribas était un petit peu la banque de poche de l'État français dans les colonies, et ces pratiques un petit peu discutables qui prenaient des proportions encore plus importantes dans les années 90, avant la fusion entre les deux banques, notamment au Congo, eh bien ont perduré.
Publier ce que vous payez à l'origine et encore aujourd'hui travaille à l'échelon international sur la promotion de normes de transparence.
Michel Roy, Secours catholique.
Nous pensons par exemple que si les marchés financiers adoptaient des normes boursières de transparence, obligeant les compagnies qui viennent chercher des capitaux sur ces marchés à publier chaque année ce qu'elles versent, état par état, avec si possible un certain détail dans ces versements, de manière à ce qu'on puisse vérifier leur véracité, on aurait tout de suite la transparence. La preuve en est que le Canada a adopté cette norme et que les compagnies canadiennes, qui sont principalement minières, mais il y a aussi deux compagnies pétrolières, publient chaque année ce qu'elles versent état par état. C'est un chiffre consolidé, mais au moins la publication est là. Et si le Canada le fait, pourquoi est-ce que les autres ne le font pas ?
Elles l'ont fait sans en souffrir économiquement, sans perte de marché.
L'ont fait sans en souffrir économiquement, sans perte de marché.
Mais ces compagnies pétrolières travaillent aussi en Afrique et dans le Golfe ?
Oui. Vous avez raison de souligner que les contextes ne sont pas les mêmes pour toutes les compagnies, mais la plupart des compagnies aujourd'hui travaillent en Afrique aussi.
Parce que la concurrence des Chinois ou des Américains est souvent invoquée pour dire que plus de transparence, c'est aussi...
Des risques de concurrence déloyale. Shell a publié assez tôt ce qu'il versait au gouvernement nigérian. Et ça n'a pas entraîné de concurrence déloyale. Donc vous voyez, on a des exemples qui montrent que d'un côté un État oblige à la transparence, d'un autre côté une compagnie a commencé sans se faire taper sur les doigts comme BP en Angola, effectivement. Il est clair pour nous que si on veut la transparence, on peut l'obtenir. On n'y est pas.
Doit-on tout publier ou doit-on publier une version synthétique ? C'est un débat qui continue d'ailleurs à être... L'objectif n'est pas de contrôler... Les compagnies pétrolières et surtout de fausser la concurrence. C'est ça le risque principal. Les contrats, la manière dont les contrats sont rédigés, font partie de notre savoir-faire. Nous ne souhaitons pas particulièrement en faire bénéficier la concurrence. Nous pensons que plus il y a de concurrence entre les compagnies pétrolières, plus cela est favorable aussi bien aux compagnies pétrolières qu'aux États, car on joue le jeu de la concurrence. Mettre tout sur la table tue la concurrence, d'autant plus que certains vont être amenés à montrer beaucoup de choses parce que ça va être leur culture, et que d'autres compagnies, parce qu'elles sont plus petites ou parce qu'elles viennent de pays qui sont traditionnellement moins ouverts, le feront moins. Et donc la concurrence va être faussée. Donc donner des informations, oui. Pouvoir contrôler les masses monétaires qui sont remises aux États, oui. Aller jusqu'à tout publier, nous n'y sommes pas favorables.
On ne peut pas complètement jeter la pierre aux compagnies pétrolières. Elles évoluent dans un environnement compliqué et il est clair qu'elles sont liées par des contrats de confidentialité avec les États dans lesquels elles travaillent. Contrats de confidentialité sur les revenus versés, sur la nature des contrats, ce qui rend pour elles extrêmement compliqué de révéler ce qu'elle verse ou de vouloir se montrer transparente. L'exemple le plus frappant de tout cela est l'Angola et British Petroleum, BP. En 2002, si ma mémoire est bonne, BP,
parce qu'elle voulait se montrer comme une compagnie transparente, parce qu'elle était, elle faisait l'objet d'une campagne de la société civile en Grande-Bretagne, a voulu révéler le montant d'un bonus qu'elle avait versé à l'Angola, à la Sonangol, qui est la société d'État angolais qui gère le pétrole, pour l'obtention d'un permis pétrolier. La réplique de l'Angola a été immédiate, c'est-à-dire qu'elle a envoyé un courrier à BP expliquant que si elle rompait son contrat de confidentialité, eh bien, elle se verrait retirer ses permis pétroliers. Et pour être bien sûr que l'ensemble des compagnies pétrolières n'auraient pas les mêmes intentions, eh bien, ce courrier a été envoyé en copie à l'ensemble des compagnies pétrolières qui travaillaient en Angola. Ce qui, évidemment, est le meilleur moyen de couper court à toute velléité de transparence de la part des compagnies pétrolières.
Global Witness est une organisation des droits de l'homme et de l'environnement qui, comme le Secours catholique, fait partie de la coalition Publiez ce que vous payez, coalition d'ONG à l'origine de l'EITI. Global Witness a publié en 2005 un rapport accablant sur la corruption du clan au pouvoir au Congo-Brazzaville. Sarah Wykes est chargée à Global Witness de la campagne contre la corruption dans le secteur extractif. Lors de son dernier voyage en Angola en février 2007, elle a été emprisonnée pour espionnage, puis libérée sous caution. Le procès est toujours en cours.
Et nous, on dit toujours que les ITI, c'est un premier pas très important, mais ça reste une initiative volontaire. Alors nous, ce qu'on veut, c'est des mesures beaucoup plus contraignantes au niveau international pour obliger les compagnies, d'une part, et le gouvernement à publier ce qu'ils gagnent et ce qu'ils versent quand il s'agit des recettes. Alors jusqu'à présent, je pense que pas mal de progrès a été fait, mais il reste beaucoup de progrès à faire dans l'avenir. Pour l'année prochaine, par exemple, c'est avoir des pays qui ont vraiment rempli tous les critères de validation, qui sont pleinement conformes, non? Surtout les pays qui sont membres du conseil d'administration au niveau international de l'EITI, ils devraient être pleinement conforme avec les critères de l'EITI. Ça, c'est un des défis pour l'EITI.
Et dans le cas du Congo, quel est votre jugement sur les avancées de l'EITI? Est-ce que ça vous paraît essentiellement des discours ou est-ce que vous notez de réelles avancées?
Pour nous, on a de sérieux doutes là-dessous sur les engagements pris par le Congo l'année dernière, par exemple, quand les autorités congolaises ont reçu l'allègement de la dette. Le Congo a fait des promesses pour stopper les conflits d'intérêts dans la SNPC, dans la Compagnie nationale pétrolière. Et ils ont aussi promis, par exemple, de ne plus faire des préfinancements gagés sur la production future du pétrole. Et il faut dire que maintenant, le Congo n'a pas du tout rempli toutes ces promesses, tous ces engagements que le Congo a fait envers la communauté internationale. Par exemple, le Congo est sorti de son programme, de ses engagements avec le FMI. Et on sait aussi, par exemple, on a des preuves que le Congo est en train de s'endetter encore une fois. Il paraît que le Congo a déjà contracté de nouveaux prêts de quelques 900 millions de dollars. Et ça, c'est très préoccupant, c'est très troublant qu'ils ont commencé encore une fois de prêter plus d'argent.
C'est un des dilemmes auxquels on est confronté avec le Congo, c'est-à-dire que le Congo est sans arrêt sur la corde raide dans ces processus-là avec les institutions financières internationales, que ce soit sur le processus de réduction de dette, pays pauvres très endettés, PPTE, ou cette initiative de transparence. Le dilemme étant que si on respectait à la lettre les critères d'engagement que doivent prendre les gouvernants du Congo, ils auraient dû être exclus depuis assez longtemps, ou en tout cas pas admis à l'étape suivante. Mais en même temps, s'ils sortent de ces initiatives, les moyens, les leviers d'évolution du Congo diminuent énormément, puisqu'ils sont plus dans un cadre d'engagement, etc. Et c'est souvent une chose qui est avancée par les dirigeants congolais un peu en off, qui disent mais si on sort de ce processus-là, on se retournera vers les Chinois qui nous financent sans condition, etc. En même temps, le Congo a fortement besoin d'avancer sur le processus de réduction de sa dette. C'est le pays le plus endetté au monde par tête d'habitant, avec une dette qui s'élève autour de 9 milliards de dollars. C'est une épée de Damoclès qui est tout sans arrêt sur sa tête. Donc il a besoin d'avancer sur ça, mais le prix à payer pour ça est pour lui trop important au regard des avantages particuliers qu'il peut avoir en maintenant le contrôle sur le pétrole.
Brice Makosso et Christian Mounzeo sont membres de la coalition Publiez ce que vous payez au Congo-Brazzaville. Leur emprisonnement en avril 2006 avait mobilisé les ONG, mais aussi le Congrès américain et la Banque mondiale, une première. Lors de cette interview en septembre 2006, ils étaient en attente de leur jugement et toujours menacés d'un retour en prison. Quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois Christian Mounzeo et Brice Makosso ?
Je les ai rencontrés, moi, en février 2003. Ils venaient en France dans le cadre d'une délégation d'église qui comprenait 7 personnes, dont Brice et Christian. Brice, à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, est membre de la commission Justice et Paix du Congo-Brazzaville, de l'église catholique du Congo-Brazzaville, et Christian Mounzeo était le directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le CDH. Ils venaient en France pour parler avec les autorités françaises et avec Total, à la suite d'une déclaration que la conférence épiscopale catholique avait faite en juin 2002, dans laquelle elle dénonçait le rôle que le pétrole avait joué dans les 4 guerres civiles que le Congo avait connues et connaissait encore, puisque la dernière ne s'est terminée sur le papier que début 2003. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est terminée, parce qu'il y a toujours des milices ninjas armées qui sillonnent le pool, mais dans un cadre aujourd'hui qui est accepté par les autorités congolaises. Donc, ce qui pose un problème, c'est une parenthèse, mais c'est le fait que le gouvernement congolais tolère des milices armées qui sont censées être des milices d'opposition dans une zone qui est une zone qu'il a toujours eu envie d'écraser, n'est pas sans signification.
C'est peut-être intéressant de parler de s'arrêter un petit moment sur justement la situation du Pool, parce qu'elle est assez emblématique de ce qu'est le Congo. Le Pool est la région au sud-ouest de Brazzaville, qui a longtemps été un peu le grenier agricole de la capitale du Congo, et dont est issu historiquement un peu toutes les élites du Congo, en tout cas tous les milieux intellectuels. Beaucoup des gens du milieu intellectuel viennent du Pool. Alors que le pouvoir en place, le régime de Denis Sassou Nguesso, est majoritairement originaire du nord du pays. Il y a toujours un sentiment une espèce de complexe entre le nord et le sud. Et Denis Sassou Nguesso a toujours essayé de faire en sorte que le Pool soit un peu maté, pour empêcher une opposition, soit politique, soit citoyenne, de se mettre en place. Et il savait qu'elle viendrait de personnes issues originaires du Pool.
Brice Makosso, septembre 2006.
Au départ, notre action était simplement tolérée, mais pas acceptée, parce qu'elle était vue par les pouvoirs publics comme la caution démocratique nécessaire pour prouver aux yeux de l'opinion publique internationale que le Congo était une pseudo-démocratie. C'est pour cette raison, principalement, effectivement, que le gouvernement nous a laissé travailler pendant tout ce temps. Mais la question du pétrole, c'est une question qui a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, et les intérêts, y compris même personnels, sont tels que les gens ont compris que nous avions une certaine force. Si nous pouvions faire passer notre message auprès des institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, tout de suite, les autorités se sont dit qu'il fallait absolument nous arrêter.
On a bien vu que le gouvernement s'est employé à montrer à la population congolaise que tant que nous n'avions pas la réduction de la dette, l'économie congolaise ne pourra pas décoller. Ce qui est complètement faux,
puisqu'on voit qu'aujourd'hui, avec les revenus pétroliers, nous avons énormément d'argent, rien que avec nos revenus pétroliers. La réduction de la dette, c'est des petites sommes. On ne sait pas qu'est-ce que ça viendra arranger, mais déjà, par rapport à ce que nous avons, nous pouvons nous en passer de cette réduction de la dette, payer nos dettes et bâtir notre avenir de manière très concrète.
Il y a un marché de la dette sur les marchés financiers, c'est-à-dire que les créanciers des pays endettés se revendent entre eux une dette à un prix souvent inférieur à sa valeur réelle, puisque ce prix dépend un peu de la solvabilité de l'État en question. Voyant que ces États, avec la hausse du prix des matières premières ces dernières années, redevenaient plus solvables qu'avant, mais n'arrivant pas à se faire payer, ont attaqué devant des tribunaux et souvent devant des juridictions anglo-saxonnes et ont obtenu, dans certains cas, gain de cause. Donc la démarche tout à fait légale est souvent pour nous totalement immorale, puisque c'est une dette en plus qui a été contractée par des dirigeants corrompus, qui a presque jamais bénéficié au développement des pays, etc. Ce que ça a permis en tout cas, ces attaques judiciaires contre ces sociétés nationales ou les pays, a permis de dévoiler tous les mécanismes de détournement des ressources pétrolières.
J'ai une question par rapport à l'intervention de la Banque mondiale. Est-ce que c'est sous l'influence des fonds vautours qu'elle intervient, comme le Congrès américain, ou est-ce que c'est totalement indépendant ?
Bon, il est clair que la Banque mondiale est quand même sous influence de ses principaux actionnaires dans ses stratégies. Les États-Unis, donc, qui sont l'actionnaire majoritaire de la Banque mondiale, ont tacitement depuis la création de ces institutions la présidence de la Banque mondiale. Les États-Unis ont déclaré après le 11 septembre qu'ils souhaitaient faire de la zone du golfe de Guinée en tirer 25% de ses ressources pétrolières, alors qu'ils étaient à moins de 5% en début des années 2000.
L'une des raisons pour lesquelles les fonds vautours sont intervenus dans toute cette histoire et au niveau de la Banque mondiale, c'est que le Congo était engagé dans le processus PPTE, c'est-à-dire une initiative en faveur de l'allègement de la dette. Pour bénéficier de cet allègement de dette, il faut remplir un certain nombre de critères en matière de transparence et de bonne gouvernance, sans quoi le FMI qui pilote cette initiative ne donnera pas son feu vert pour annuler la dette. La raison pour laquelle les fonds vautours sont intervenus dans tout ce processus, c'est que, étant les titulaires d'un certain nombre de créances sur le Congo, ils ne voulaient pas que le Congo bénéficie de cette annulation de dette, puisque d'un seul coup, ça reviendrait à dévaloriser leurs propres créances. Donc, ces fonds vautours ont fait un lobbying absolument considérable auprès de la Banque mondiale et du FMI pour que le Congo n'obtienne pas ce qu'on appelle le point de décision, qui est la première étape de cette annulation de dette. Et pour faire ce lobbying, évidemment, ils ont produit des documents, ils ont rassemblé de l'information, et pour montrer et démontrer au FMI, aux administrateurs du FMI et de la Banque mondiale, que le Congo était un pays où la rente pétrolière s'évaporait dans tous les sens, qu'il y avait des fuites absolument partout, et que donc ce pays ne méritait pas de bénéficier de son annulation de dette. Et ce faisant, effectivement, les fonds vautours ont contribué à y voir beaucoup plus clair dans la façon dont était gérée la manne pétrolière au Congo. Et c'est ça qui est assez surprenant, parce que ces fonds vautours, évidemment, ont un intérêt considérable. Ils ont racheté quelques millions de dollars, une dette qui, s'ils se la font rembourser intégralement, vaut 120, 130, 140 millions de dollars. Pour eux, l'intérêt est absolument considérable. Donc ils ont des moyens considérables d'investigation, d'enquête, et ils ont fourni au FMI et à la Banque mondiale des documents assez déroutants.
Le gouvernement s'est organisé avec les médias pour pouvoir diaboliser tout le travail que nous faisons, pour pouvoir nous diaboliser nous-mêmes d'abord sur toute la campagne que nous menons, en assimilant cette campagne, publier ce que vous payez comme étant une campagne appuyée par des fonds vautours, en nous disant que nous étions en lien avec les fonds vautours, que notre combat pour la transparence était un combat qui allait contre les intérêts de la nation congolaise. On a bien vu lors des consultations le ministre des Finances nous dire que nous étions ennemis de la République, parce que nous avions écrit au FMI pour demander que le point de décision que l'on devrait accorder au Congo soit retardé afin de renforcer les mesures de transparence.
Comment est-ce que l'opinion publique congolaise perçoit votre combat ?
Nous sommes suffisamment soutenus par l'opinion publique. Je veux dire, nous nous présentons dans un contexte, je l'ai dit, qui est difficile, mais dans les populations, il n'y a pas de citoyenneté. Parce que depuis les différentes guerres que le pays a connues, les populations ont été traumatisées. Mais le traumatisme, il a été voulu, il a été organisé. C'est-à-dire que on a organisé une guerre contre les populations civiles. Et on a lancé des obus, des bombes sur les populations civiles dans l'intention de les traumatiser d'une part et d'autre part de les empêcher par ailleurs et dans l'avenir de pouvoir user de leur citoyenneté. Cela fait que aujourd'hui les populations du Congo sont comme qui dirait amorphes. Elles ont peur et il faut dire que leur peur n'a jamais été soignée.
Aujourd'hui, le gouvernement de la République instrumentalise la peur, les blessures de la guerre. On voit bien le gouvernement dire si vous continuez avec ces attitudes-là, on va retomber dans la violence dans le pays, ainsi de suite. Mais cette population, elle n'est pas dupe. Elle voit à côté quel est le train de vie des membres du gouvernement. Et donc, quoi que le gouvernement se soit engagé dans ce combat de vouloir diaboliser notre campagne, la population est consciente que tout cela est fait juste pour nous museler, pour nous empêcher de travailler. Et on a bien vu que le paroxysme de cette démarche a été notre emprisonnement au mois d'avril dernier. On n'imaginait pas que les autorités arriveraient jusqu'à ce point, c'est-à-dire avant même que nous soyons entendus, on est déjà mis en garde à vue, alors qu'il n'y avait aucun mandat écrit, mais la police est quand même arrivée dans nos domiciles. Vous imaginez le type de police que nous avions, nous, en Afrique. Et quand elle débarque dans votre maison, qu'elle investit la maison de 16h à 19h, et en ce moment-là, vous avez vos enfants qui sont là, qui vous regardent, donc c'est très 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 difficile. À côté de ça, le temps que nous sommes restés en prison, là aussi, ça a été des moments très durs, très difficiles. Mais en même temps, pendant que nous étions en prison, je crois qu'il y a eu ce sentiment de ne pas abandonner.
Lorsque nous avons eu connaissance des menaces dont il faisait l'objet dès l'automne 2005, ça a monté en puissance un peu dans la presse locale, etc. On avait tiré une première sonnette d'alarme, si on peut appeler ça comme ça, en envoyant un courrier à la fois à l'Élysée et au ministère des Affaires étrangères, faisant état de l'inquiétude qu'on avait sur le sort qui leur était réservé localement. Et malheureusement, ça s'est confirmé deux mois après, puisqu'on avait fait ce courrier début février 2006, au moment où le débat était vif sur l'accession du Congo au point de décision. Et deux mois après, ils ont été mis en prison. Et alors, bon, bah là, on a notre rôle a été surtout de faire connaître cette situation, de à la fois auprès des médias, mais aussi des autorités politiques et françaises et internationales, puisqu'on savait quoi. Les risques étaient très forts qu'ils disparaissent complètement dans la nature et qu'on n'entende plus jamais parler d'eux, quoi. Il y a un faisceau d'éléments qui montre bien que ça aurait été une possibilité s'il n'y avait pas eu une médiatisation forte de l'affaire à ce moment-là.
Quel faisceau d'éléments ?
À la fois toutes les menaces qu'ils ont reçues, le fait qu'il y ait autant d'irrégularités de procédure dans leur arrestation et dans leur emprisonnement. Les premiers jours de leur incarcération, il n'y avait aucun papier officiel disant qu'ils étaient présents à ce moment-là au poste de police ou arrêtés ou quoi que ce soit. Donc, si après ils disparaissaient, il n'y avait pas de preuve écrite du fait qu'ils avaient été arrêtés, ni qu'il y avait eu perquisition chez eux, etc. Et on a su plus tard qu'il y a eu des tentatives pour aller venir les chercher en prison et les emmener en brousse. Et on ne sait pas ce qui aurait pu leur arriver à ce moment-là, quoi. Lorsqu'on a contacté l'ambassade de France dès le premier et même deuxième jour de leur arrestation, de leur emprisonnement, moi je leur avais annoncé au téléphone à l'ambassade de France à Brazzaville que, bah, étant donné la situation, qu'on allait alerter les médias et faire savoir qu'ils étaient emprisonnés. Et la réaction de la personne de l'ambassade de France à un haut poste a été de dire « Oh non, il vaut mieux pas, ça va braquer le gouvernement ». Alors qu'on était vraiment dans une situation où on savait pas ce qui allait leur arriver, quoi. Ils étaient en danger de mort Et seule la médiatisation et l'information auprès des autorités pouvaient les protéger là-dedans.
Comment est-ce que les populations sont au courant de ce que vous défendez alors que c'est constamment déformé par les médias officiels?
Le problème avec les médias au Congo, c'est que les hommes qui animent les médias ne vivent pas en dehors, n'est-ce pas, de l'espace Congo, et donc sont l'objet des mêmes persécutions que les populations. On peut dire que les populations sont informées, notamment des actions que nous menons, soit par la voix des radios, comme des radios étrangères, comme Radio France Internationale, comme La Voix de l'Amérique, comme la BBC, par les télévisions internationales. Bon, les médias également au plan national, de temps en temps, en tous les cas quand même, relaient, quand il le faut, n'est-ce pas, un certain nombre de nos activités, puisqu'il y a une certaine presse privée. Il suffit parfois de payer pour que cette presse soit capable de relayer. Et donc, nous organisons également des campagnes de sensibilisation de proximité à l'intention des populations. Parce que pour nous, il est question de toucher ces populations, qu'elles se lèvent pour pouvoir revendiquer leur propre développement. Personne d'autre ne pourra le faire à leur place. Et les gens de plus en plus prennent position et nous pensons que notre combat avance, nos cibles sont atteintes et en termes de résultats, nous sommes aussi en train d'avancer.
Comment les choses peuvent changer si effectivement le pétrole arrose ou continue d'arroser les caisses des différents partis français, s'il finance les pouvoirs en place en Afrique? Enfin, il n'y a que la population qui intéresse que ça change, or la population ne gouverne pas.
C'est là tout l'enjeu de la mise en place d'organisations de société civile structurées, responsables, expertes. À mon sens, c'est le principal espoir à avoir pour les années à venir. C'est-à-dire que on a actuellement des organisations de société civile en Afrique, d'un niveau d'expertise et de compétence et aussi de légitimité sur les sujets qu'elles abordent, qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ans, 20 ans. Maintenant, en France, ça passe de plus en plus par une mobilisation des consommateurs, une sensibilisation des consommateurs sur quelle est un peu la couleur de l'essence qui coule dans leur voiture. C'est important, je pense aussi, de sensibiliser aussi les actionnaires, qu'ils sachent un peu ce que l'entreprise fait en leur nom, ou en tout cas ce qui se fait dans les pays où leur compagnie est exploitatrice de pétrole. Il y a encore du chemin à parcourir.
Dans le cas de Christian Mounzeo et de Brice Makosso, ils sont connus?
Ce qui est important de se rendre compte pour le Congo, c'est que ils font partie des personnes qui ont permis à ce que le sujet du contrôle de la manne pétrolière au Congo ne soit plus un sujet tabou dans la société congolaise. Alors qu'il l'était jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait le pétrole, mais il n'y avait pas. Ça ne faisait pas l'objet de débats dans l'opinion publique, de débats dans la société. Lorsque eux ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là et ont mobilisé la conférence épiscopale qui a fait cette déclaration donc en juin 2002, faisant le lien entre gestion de la manne pétrolière, conflit et corruption, ça a eu l'effet d'un coup de canon. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet qui n'était plus tabou.
Quand on regarde les conditions dans lesquelles effectivement nous avons été pris, emprisonnés, etc., c'était clairement affiché, c'était nous avilir, c'était nous dénigrer, mais c'était nous diminuer, je veux dire, psychologiquement. Parfois, il est arrivé qu'on nous ait mis dans des cellules. Je n'ai pas les mots parce que les mots me manquent. Ça a été tellement dur. Une cellule dans laquelle il y a plein d'urine, il y a des matières fécales déposées depuis des mois et des mois, qui se sont entassées dans une forme de montagne, etc., où il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de respirer de l'air pur. Et nous y sommes restés des heures et des heures durant. Vous voyez, il y avait cette hargne de vouloir casser quelque chose au fond de nous. C'est principalement pour cette raison que cette démarche a été organisée. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le harcèlement judiciaire, n'est-ce pas, qui est finalement entrepris pour continuer de nous garder dans des liens de la prévention dans le cadre de ce dossier, on a la preuve de ce que, en réalité, les autorités sont en train de rater la cible. La cible au Congo, c'est la corruption. La cible, ce sont les détournements. La cible, c'est la misère, c'est la pauvreté. La cible, c'est les violations de la dignité de la personne humaine.
Dès l'origine, je suppose, le travail de Global Witness a été la lutte pour plus de démocratie, la faire passer par ce travail sur la transparence.
Bon, je pense que les droits de l'homme, c'est aussi les droits économiques. Et je pense que un des droits les plus fondamentaux, c'est que s'il y a un pays, que les citoyens d'un pays puissent vraiment bénéficier des richesses de leur propre pays, non? Parce que, par exemple, les richesses naturelles, que ce soit au Congo, en Angola, etc., ça n'appartient pas au gouvernement. Ces richesses appartiennent aux citoyens. Le droit à vivre, ne pas vivre dans la pauvreté, le droit à le développement durable, c'est un droit qui devrait être universel. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que récemment, dans les derniers mois, on a vu beaucoup d'harcèlement, on a vu des tentatives d'intimidation des acteurs de la société civile au niveau national en Angola. Et on n'a pas vraiment vu une réaction forte de la part de la communauté internationale, comme l'Union européenne, mais aussi par exemple de la France.
Depuis que le gouvernement a changé, est-ce qu'on a senti un réel changement, plus d'implication, une autre manière de faire par rapport à ces questions de transparence, de relations entre États?
Bon, je pense que le nouveau président français, M. Sarkozy, il a fait des déclarations, par exemple, qui étaient assez positives quant à vouloir finir avec ce qu'on peut appeler le Francafrique, les relations entre la France et ses ex-colonies, non? Mais je pense que tout l'important, comme dans tout, ce n'est pas seulement les paroles et les discours, c'est les actions. Et par exemple, dans ce cadre, je pense que c'est très, pour nous, c'est assez troublant qu'une plante qui a été portée à Paris par une association congolaise et par l'avocat des droits de l'homme, Maître William Bourdon, récemment, cette plante qui avait visé cinq chefs africains et leurs familles qui apparemment avaient des biens à Paris, des biens mobiliers, qu'ils ne pouvaient pas avoir achetés avec leur salaire officiel. Il paraît que cette plante a été classée récemment par le parquet de Paris. Alors si nous, Global Witness, on peut découvrir ce genre de preuves, il me semble un peu extraordinaire que la police française, par exemple, n'a pas pu trouver de tels éléments qui pouvaient justifier que ce dossier soit mis dans les mains d'un juge d'instruction. Alors, par exemple, ça, c'est un pas pris par la justice française qui ne paraît pas très clair.
Déjà en 1999, François-Xavier Verschave dénonçait dans son livre « La France-Afrique » les rapports qu'entretiennent la classe politique française avec les dirigeants africains par l'entremise des grandes compagnies nationales et des banques occidentales. La lutte pour les droits de l'homme en Afrique se heurte toujours à cet agrégat entre l'économique, le politique et le militaire qui trouve ses racines dans la colonisation.
Il est clair que Jacques Chirac entretient avec Denis Sassou Nguesso des liens extrêmement étroits depuis très longtemps.
Xavier Harel.
Qui tiennent aux liens pétroliers et diplomatiques entre la France et le Congo-Brazzaville, mais qui sont aussi des liens personnels. Alors l'illustration la plus forte de ces liens, c'est évidemment l'affaire des disparus du Beach. En 97, lorsque Sassou revient au pouvoir, il y a ensuite une guerre civile, une épuration ethnique, on peut parler d'épuration ethnique, contre une partie de la population congolaise qui se réfugie de l'autre côté du fleuve Congo, pour une partie d'entre elles, au Congo Kinshasa, l'ancien Zaïre. En 99, Sassou lance un appel à la télévision en disant « cette guerre est finie, maintenant on va travailler sur la paix, vous pouvez rentrer au Congo ».
Et donc, un certain nombre de Congolais qui avaient fui, sous le patronage du Haut Comité pour les réfugiés de l'ONU, rentrent au Congo par ce qu'on appelle le Beach, qui est le port fluvial de Brazzaville, la capitale du Congo. Et en arrivant à Brazzaville, au Beach, eh bien, les gens sont séparés en fonction de leur patronyme ou simplement parce qu'ils ont des traces de baudrier sur l'épaule ou des marques de rangers aux pieds, dès lors qu'ils sont considérés comme anciens membres de l'opposition. Ils sont séparés et ensuite ils sont massacrés. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont massacrées ainsi. Les familles, évidemment, demandent à les retrouver, demandent des comptes au pouvoir qui, évidemment, restent dans un déni absolu. Et c'est là que les organisations des droits de l'homme et la société civile réussissent, d'une certaine façon, à réunir de l'information et à faire monter l'affaire en France auprès de la FIDH qui va, à l'occasion du passage de Jean-François Ndengue, qui était le chef de la police au moment des faits, déposer une plainte en France et permettre l'ouverture d'une enquête sur l'affaire des disparus du Beach. Deux juges d'instruction sont désignés, deux juges d'instruction extrêmement courageux qui vont faire un travail formidable, qui vont réunir énormément de témoignages sur ces massacres et sur la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso et de l'ensemble de sa hiérarchie militaire. Jean-François Ndengue est donc arrêté à son domicile dans la région parisienne, mis en examen. Le juge d'instruction, qui sait parfaitement qu'il marche sur des œufs, demande aux affaires étrangères à savoir s'il bénéficie d'une immunité parlementaire, enfin d'une immunité diplomatique, pardon. Le Quai d'Orsay commence par répondre que non, il n'en dispose pas, puis change son fusil d'épaule et affirme qu'il est en mission diplomatique et que donc il en bénéficie. Malgré ça, le juge d'instruction décide de le mettre en examen et de l'incarcérer avec l'appui du juge d'application des libertés. Il est donc mis en examen, incarcéré à la santé. Et au milieu de la nuit, la présidente de la Cour d'appel de Paris est réveillée vers minuit et demi, on est vendredi soir, et elle rend une décision demandant la libération de Jean-François Ndengue, qui est libéré à 4 heures du matin de la santé. La levée d'écrou à la santé, ça ne se passe jamais avant 6 heures. Et là, il est libéré en plein milieu de la nuit et il reprend un avion qui a été affrété par les autorités congolaises vers le Congo. Il y a eu des interventions à tous les niveaux. À ce moment-là, Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, obtient le portefeuille de l'intérieur et c'est lui qui va gérer l'ensemble de l'affaire à la demande de Jacques Chirac et qui va obtenir cette libération qui est un déni de justice absolu puisque c'est sur intervention de l'exécutif que Jean-François Ndengue retrouve la liberté.
François-Xavier Verschave, en 2005.
La non-réaction de l'opinion est pour nous effectivement la question la plus centrale, lancinante. Bien sûr, l'opinion a été roulée, elle a été désinformée. Mais en même temps, il y a eu des livres de temps en temps qui sont parus, des bouts d'articles, de reportages. Mais je crois aussi qu'une grande partie de l'opinion française ne veut pas vraiment savoir. D'abord parce que quand vous découvrez cela, ce qui a été notre cas, et que j'ai retranscrit par exemple dans un livre comme La France-Afrique, eh bien, vous êtes cassé en deux. Quelque part, toute votre représentation de la grandeur de la France, elle vole en morceaux. Je connais des tas d'amis qui ont eu un mal fou à aller au bout de la lecture de mes livres. C'est un choc.
Est-ce que la venue de Sarkozy au pouvoir a changé quelque chose à ça ?
Alors, c'est encore compliqué de se faire une idée. C'est encore difficile d'avoir un discours tranché. Avant d'arriver à l'Élysée, Sarkozy avait fait une tournée en tant que ministre de l'Intérieur en Afrique. C'était juste après son adoption de la loi sur l'immigration choisie. Donc il avait été accueilli assez fraîchement. Et il avait fait un discours assez important, je crois que c'était au Bénin, qui était passé relativement inaperçu, où il dénonçait les officines, les réseaux. Un discours très anti-France-Afrique. Donc finalement, on pensait que l'arrivée de Sarkozy allait permettre d'une certaine façon de tourner la page des années Chirac, Chirac ayant des relations privilégiées et totalement anormales avec un certain nombre de chefs d'État africains. Malheureusement, jusqu'ici, les signaux envoyés sont très contradictoires. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, le soir de son élection, appelle directement Omar Bongo, le chef d'État, le président du Gabon. Le Gabon, c'est un peu la corne d'abondance de la France-Afrique, pour le remercier de ses bons conseils. Ce n'est pas le président du Gabon qui appelle Nicolas Sarkozy pour le féliciter, c'est Sarkozy qui appelle Omar Bongo pour le remercier de ses conseils. Ensuite, Lors de sa première tournée en Afrique, donc qui était Nicolas Sarkozy s'est arrêté à Dakar, a fait un discours qui a été jugé assez calamiteux. Et ensuite, sa deuxième étape a été le Gabon. Et une deuxième fois, si on voulait tourner la page des années Chirac, eh bien, le Gabon n'était pas forcément le meilleur signal à envoyer. Enfin, Nicolas Sarkozy a reçu Denis Sassou Nguesso récemment à l'Élysée et n'a pas adressé de signal particulier contre ces pays qui sont dirigés par des régimes kleptocrates qui détournent des sommes absolument colossales.
En 2007, la situation de Christian Mounzeo et de Brice Makosso a changé. Grâce à la mise en place de l'EITI au Congo-Brazzaville, qui nécessite la participation de la société civile, le gouvernement congolais travaille désormais avec eux. Total s'implique dans la bonne marche de l'EITI sur le terrain. Jean-François Lassalle.
Nous avons au Congo, comme dans d'autres pays, mis en œuvre l'EITI avec la société civile qui a été désignée. Donc effectivement, c'est M. Makosso et Mounzeo. Et avec le gouvernement congolais, bon, il y a eu quelques problèmes au tout début, comme vous avez vu dans la presse. Aujourd'hui, on est en phase, je dirais, je l'espère, mais je le pense également, de normalisation de ces relations. D'ailleurs, les comités de locaux de l'EITI ont été mis en place, dans laquelle le DG, le directeur général pardon, de Total, a une place prépondérante, et le premier vice-président étant Christian Mounzeo de publier ce que vous payez.
Christian Mounzeo, décembre 2007.
On croit parfois que le fait que nous soyons dans ces comités nous oblige désormais, n'est-ce pas, à la limite à oublier notre mandat premier qui est un mandat de société civile et qui nous donne l'opportunité de pouvoir agir, n'est-ce pas, d'une certaine façon. Et des choses sont en train de se faire, mais il en faut davantage. Il faut que nous soyons capables de faire un lien entre les revenus et les besoins des populations. Or, ces besoins, ils sont d'une importance telle que on pourrait penser que rien ne se fait. Et c'est pour ça que, de plus en plus, nous devons faire de la lumière sur ce que gagne le Congo. Combien le gouvernement gagne, qu'est-ce qu'on en fait? On nous dira que, évidemment, l'argent est viré au trésor. On nous dira que l'argent est utilisé dans les différents budgets qui permettent à la nation de fonctionner. Mais il faut aussi, en ce moment-là, et tout, que les choses soient clarifiées sur la façon dont le budget lui-même, n'est-ce pas, est mis en œuvre. La transparence est le moyen qui permet de garantir la paix sociale. La transparence est le moyen qui permet de pouvoir renforcer le climat des affaires. La transparence est cette opportunité qu'on pourrait donner, effectivement, à la communauté internationale, que nous pouvons, nous, intégrer également cette mondialisation, n'est-ce pas, qui est en cours. La transparence, finalement, ceux qui doivent en tirer le plus de dividendes, ben, ce sont justement les élus, les gouvernants, ce sont les autorités. Simplement parce que tant que tout le monde sait comment les choses se passent, il y aura la paix, il y aura la sécurité, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura... Et d'ailleurs, dans ces conditions, les investisseurs viendront et nous allons nous développer. Donc, pour nous, nous demeurons constants à l'idée de dire qu'il faut que le gouvernement, dans son objectif de transparence, dépasse le projet de la dette, le projet de l'initiative de transparence des industries extractives. La transparence, c'est un attribut de la démocratie. Elle doit être un objectif à plus long terme. C'est une façon de vivre que ceux qui gèrent les affaires publiques doivent absolument adopter aujourd'hui, demain et pour tout le temps, et tout ça devrait être comme ça. Et de ce point de vue, c'est aussi la transparence dans les élections, c'est aussi la transparence dans la façon de gouverner, c'est tout cela. Et cette transparence suppose également la participation populaire, la participation des citoyens. Les citoyens doivent rentrer dans les priorités, n'est-ce pas, du gouvernement. C'est ce à quoi nous pensons.
C'était La transparence de l'or noir, un documentaire de Marie-Annick Bello et Anne Fleury, avec Xavier Harel, Christian Munzeo et Brice Macosso, Jean-François Lassalle, Michel Roy et Grégoire Niaudet, Sarah Wiles. Archivina, Florence D'Artois. Extrait de Elfe, la pompe afrique, lecture d'un procès, par Nicolas Lambert. Afrique, pillage à huis clos, ou comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain, de Xavier Harel, est édité chez Fayard. Merci à Gilles Davidas, Irène Omelianenko et Véronique Robérotte. Équipe technique, Jean-Paul Lodéon, Mathieu Leroux, Jean-François Néolier. Mixage, Valérie Lavalard.
Vous écoutez France Culture.
Bonsoir. Du jour au lendemain, avec Eugène Savitskaya, qui publie Nouba, un livre et un CD coédité par Yellow No et Cinquième Quartier. Y a-t-il un lendemain? Qui peut répondre à cette question? Ce n'est pas la première fois, Eugène Savitskaya, que vous venez dans cette émission. Je crois bien d'ailleurs que si on essayait d'en faire l'historique, il faudrait remonter très très loin dans le temps.
Oui, c'est vrai, je me souviens d'avoir été invité pour parler de la traversée de l'Afrique. Mmh. Il y a très longtemps, j'avais beaucoup de mal à en parler.
Oui, je me souviens d'un jeune homme très silencieux.
Mais parce que, comment dire, j'avais à cette époque-là vraiment la prétention de croire que tout ce qui était écrit suffisait largement à ce qui est écrit.
C'est une position qui se défend
peut-être. Oui, tout à fait. Oui.
Alors j'ai dû dire, quand vous étiez venu à ce micro, que vous étiez le fils d'un père russe et d'une mère polonaise immigrés en Belgique après la guerre.
Oui.
Et que, en Belgique, les études, vous n'en avez pas fait tant que ça. Hein, vous avez abandonné très tôt l'école, pensant que ça ne servait à rien. Surtout quand on veut écrire, et ça, vous le vouliez.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai pour faire plaisir à mon père, qui avait fait vraiment des efforts. Il était mineur, donc ça veut dire qu'il payait les études de ses fils. Il fallait aboutir à quelque chose. Mais en même temps, la dernière tentative que j'ai faite, c'était dans les bancs de l'université de Liège pour étudier la philologie romane. Et au moment où, la linguistique m'intéressait beaucoup, le côté scientifique vraiment de l'approche de la littérature m'intéressait beaucoup, de la langue. Mais au premier atelier de décortication de texte, l'analyse de texte, je me suis senti de trop. Je ne comprenais pas du tout à quoi ça pouvait aboutir. Et j'ai décidé là de prendre une sorte de liberté totale, donc ne plus poursuivre d'études, mais non plus de travailler.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans la vie à cette époque-là?
Beaucoup de choses à la fois. C'était énorme. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui... Enfin, je marchais sans cesse. À partir du moment où je n'ai plus besoin de m'asseoir à une table d'école, ou je sais pas, voilà, je me suis senti mais d'une liberté totale, mais je me suis mis à marcher. À marcher, à déambuler sans fin. Donc, du matin au soir, je marchais. Et ce qui m'intéressait énormément aussi, c'était...